I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut les fous du volant, on est très heureux de vous retrouver pour parler Formule 1 avec cette semaine, comme d'habitude, Stéphane Brignoux. Salut Stéphane.
En forme, Gilles.
Ouais, moyen. Il y a eu les 24 heures du Mans moto. J'ai passé une nuit un peu courte avec... Pas mal de bruit, mais
une sorte de jet lag, quoi.
C'était pour la bonne cause. Évidemment, on va pas parler d'endurance moto, on va parler de Formule 1 avec le Grand Prix d'Émilie-Romagne qui sera le premier week-end avec une course sprint dans cette saison 2022. Et justement, ça sera le premier sujet de notre podcast Les Fous du Volant aujourd'hui. Qui peut profiter de ce premier week-end sprint? On évoquera aussi le cas de deux tauliers en Formule 1, Fernando Alonso, Sébastien Vettel, avec des trajectoires assez différentes pour des garçons qui ont tous les deux une expérience absolument colossal. Et puis, on reviendra aussi, ça c'est un sujet un petit peu particulier, sur les difficultés mentales qu'a avoué Lewis Hamilton après le Grand Prix d'Arabie Saoudite. On a eu un bel entretien avec un psychologue du sport qui nous expliquera quelles peuvent être les difficultés d'un sportif de haut niveau aux différents stades de sa carrière. Ce podcast, qui est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify, en passant par Acast et par Apple Podcast, n'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et puis aussi à vous abonner. Et de cette manière, vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. On débute donc ces Fous du Volant aujourd'hui avec une question: qui est le mieux placé pour profiter du premier week-end de sprint de la saison? On va donc prendre la direction du circuit d'Imola pour le Grand Prix d'Émilie-Romagne. C'est le premier week-end au format sprint cette saison. Il y aura également l'Autriche et le Brésil, un petit peu plus tard dans le calendrier. D'abord Stéphane, si tu le veux bien, on va évoquer le programme qui est un petit peu particulier et qui est forcément différent d'un week-end classique. Vendredi, 13h30, première séance d'essai libre, 1h. Et ensuite, tout de suite, on est dans le vif du sujet, à 17h jusqu'à 18h. Qualification, là il n'y a pas le temps de tergiverser, hein. Faut être dans le vrai dès la première séance d'essai libre, sinon on est mal placé sur la grille. Samedi, 12h30, 13h30, deuxième séance d'essai libre, et à 16h30, la course sprint. Il y aura donc 21 tours de circuit à effectuer avant dimanche, on va dire un horaire classique et un rendez-vous classique, dimanche 15h, le Grand Prix avec cette fois 63 tours. Quand je disais qu'il allait falloir être dans le vif du sujet, il n'y a vraiment pas de temporisation possible. Stéphane, un petit bilan peut-être de ce qui s'était passé l'année dernière, tu t'en souviens?
Alors oui, je me souviens que c'est Verstappen qui avait tiré les marrons du feu, spécialement sur certains départs le samedi, en course sprint, il avait marqué 7 points.
Tout comme Bottas d'ailleurs.
Exactement.
Ça on a un peu tendance à l'oublier, Valtteri Bottas avait remporté deux courses sprint.
À Monza et à Sao Paulo.
C'est ça, donc 7 points pour Bottas et pour Verstappen, 2 seulement pour Lewis Hamilton et puis 1 pour Carlos Sainz et Daniel Ricciardo. À la différence près, Stéphane, c'est que l'année dernière, les courses sprint n'étaient créditées que de 3 points pour leur vainqueur, 2 points pour le deuxième, 1 point pour le troisième. Cette saison, ça a changé beaucoup, puisque le premier va marquer 8 points. En fait, les 8 premiers vont marquer des points, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, jusqu'au 8e.
Oui.
Ce qui veut dire que on va passer, alors là j'ai fait un petit calcul un peu compliqué, mais en gros, si tu gagnais les 3 courses de qualification l'année dernière, tu marquais 9 points sur 581 possibles sur l'ensemble de la séance,
oui,
de la saison. Ça représentait 1,5% du total de points disponibles. Et bien cette année, c'est presque 4%, puisque donc 3 x 8, 24. Sur,
ouais,
les 622, je suis parti du principe qu'on trouverait une 23e date, et bien ça fait presque 4% du total.
Tu fais des calculs en cachette, tu m'en avais pas parlé.
T'as vu ça un peu. On se fait des petites surprises.
Alors, ce que je pourrais dire aussi, c'est que cette course du samedi là devient une course à part entière maintenant. Oui. Parce que il y aura une qualification donc le vendredi, pole position, et c'est ce pilote qui sera en pole position aussi de la course du dimanche. Donc, on ne reprendra pas. La course sprint du samedi ne sera pas un pré-grand prix. Tu te souviens, Gilles ?
Ouais.
La qualif le vendredi, constitutif de la grille de départ de la course sprint samedi. Et puis, on prenait le résultat de la course sprint du samedi et ça faisait la grille de départ du dimanche. Et si on abandonnait, c'était vraiment la double peine.
Ouais.
Voilà, tout à fait. Donc là, maintenant, il n'y a plus ça. C'est peut-être mieux quand même. Je ne sais pas si les pilotes vont prendre des risques comme l'année dernière, mais peut-être plus. Après, il y a cette notion effectivement des points qui sont augmentés, donc c'est peut-être la volonté aussi d'inciter les pilotes à attaquer un petit peu plus. Il y aura peut-être un petit peu plus de spectacle parce qu'on l'avait constaté quand même honnêtement l'an dernier, on n'avait pas eu trois courses folles.
Non, c'est sûr.
Vraiment.
Faut quand même se souvenir que il y a pas si longtemps en Formule 1, le vainqueur marquait 10 points. Le vainqueur du Grand Prix marquait 10 points. Là, on en est à 8 points pour la course sprint. Quelque part, on est presque au total d'un vainqueur de Grand Prix d'il y a quelques années. Alors, ça avait été inauguré l'année dernière à Silverstone. C'était lors de la 10e épreuve de la saison. Finalement, on s'en souvient assez peu parce que si vous dites Silverstone 2021, c'est accrochage Hamilton-Verstappen qui l'emporte dans le souvenir. Nous, on s'est posé la question, vu que ça arrive très très vite cette saison, un quatrième rendez-vous, qui est le mieux placé pour en tirer profit? Et là, Stéphane, il faut bien reconnaître qu'on a eu la même conclusion, et on ne va pas être très très original, c'est Ferrari qui est le mieux placé. L'argument, c'est que Ferrari, la Scuderia, dispose de la voiture la plus performante en ce moment, que sur un week-end classique, on peut marquer un total de 44 points, si on additionne les points du premier et du second, plus le point du meilleur tour en course. Bah là, de 44, on passe à 59 points. Donc clairement, il y a une occasion pour Ferrari de marquer de gros points ce week-end.
Et c'est là qu'on va peut-être voir, qu'on l'a déjà dit cette année, que cette course sprint, elle va peut-être donner encore plus d'avantages à Ferrari, creuser encore plus l'écart. Et on va se poser la question, est-ce que c'est bien tout ça et d'avoir donné spécialement 8 points au vainqueur? Alors, il devait y avoir 6 courses à l'origine, 6 courses au sprint. Ça a été ramené à 3 courses. Pour des questions de plafond budgétaire, les équipes demandaient une petite rallonge pour dépasser en fait le budget annuel. Ça n'a pas été accordé par le promoteur de la Formule 1 qui a donc fixé 3 courses sprint cette année. Mais je dirais que ça c'est un petit peu des distorsions parce que les équipes sont un petit peu frileuses pour apporter
de la nouveauté.
Si on regarde bien, en fait, il n'y a qu'une séance d'essai libre pour préparer la qualification. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les équipes vont être sur des setups sur un tour simplement. Et puis, elles pourront travailler un petit peu plus sur des relais, des simulations de course le lendemain en essai libre 2 avant la course sprint. Et généralement, en fait, on valide des pièces le vendredi soir et on les garde pour le reste du week-end. Et là, il n'y aura pas suffisamment de roulage pour en savoir davantage sur ces pièces-là. Donc, il y a beaucoup d'équipes qui vont s'abstenir.
Exactement. Bah, c'est le cas de Ferrari qui a dit qu'on n'amènerait pas de pièces du côté de Imola. Et Ferrari peut s'offrir ce luxe finalement, vu qu'ils sont en ce moment les plus performants, d'attendre un moment vraiment propice pour essayer d'amener encore un progrès sur la Ferrari. Alors évidemment, sur le papier, c'est idéal pour Ferrari. On a quand même réussi du côté des adversaires à essayer de venir enquiquiner un petit peu Mattia Binotto. Il y a cette histoire d'enquête demandée par certains adversaires.
Alors en fait, on entendait partout Leclerc qui gagne la première course, Ferrari de retour, tout le monde était content, Hamilton en premier, il y avait un parfum de renouveau. Ferrari, on le dit assez souvent ici, c'est la base, ils étaient là à l'origine du championnat du monde et ça fait toujours plaisir. On aime toutes les équipes de toute façon. À partir du moment où elles sont bien conduites.
C'était donc le retour là, du troisième plaisir. Gros en plus, voilà. Donc c'était,
tout à fait.
C'était
exactement.
Positif.
Et puis Red Bull a gagné la deuxième et là on sent que Leclerc remet ça sur la troisième course et les gens trouvent que certaines personnes dans le paddock trouvent que c'est trop déjà, tu vois. Donc là maintenant, il y a une cible dans le dos de Mattia Binotto, clairement.
Alors explique-nous exactement ce que c'est que cette histoire de réclamation.
On avait abordé un petit peu le sujet. Déjà, eh bien, c'est tout simplement les échanges de données potentielles entre Ferrari et Haas. on rappelle une chose, c'est que Ferrari fait, je ne sais pas, 70-80% de la Haas, dans un, enfin 100% même, je dirais, avec des pièces mutualisées, je ne sais pas à quelle hauteur, mais moteur, boîte de vitesse et tout ce qui est permis par le règlement, dans un bâtiment à part, à Maranello, juste à côté de l'usine Ferrari, il y a 300 personnes qui travaillent pour Haas, et pour la plupart, ce sont des anciens de Ferrari, ou des gens qui sont détachés parce qu'il y a eu le cap budgétaire, il a fallu réduire la voilure dans toutes les équipes, et Ferrari a trouvé comme solution en fait de déplacer des gens pour les affecter au fonctionnement de l'écurie Haas.
C'est comme ça qu'on retrouve Simone Resta, qui était ancien directeur technique de chez Ferrari, désormais sous les couleurs de Haas.
Alors la question maintenant, c'est est-ce que Ferrari mutualise des pièces, peut-être un peu trop, par rapport avec la Haas? Et il y a apparemment trois équipes qui ont soulevé le problème en fait à la FIA en posant différentes questions. Elles n'ont pas de preuves formelles qu'il y a une apparenté entre la Ferrari et la Haas, même s'il y a des ressemblances. Et là, ces trois équipes demandent tout simplement quelque part à Ferrari de décortiquer les deux voitures. Alors, McLaren, je ne sais pas, parce que Andreas Seidel a dit il y a des échanges, c'est inévitable. Alors, je ne sais pas sur quel plan il se positionne, mais McLaren a déjà posé des questions pour déclencher des enquêtes. Mais apparemment, ça, c'est un magazine allemand très sérieux qui a dit ça, Automotor und Sport, qui a posé cette information, qu'il a apporté cette information, comme quoi il y en aurait quatre, parmi lesquels, apparemment, Mercedes, McLaren, Aston Martin et Alpine. Alors, peut-être
Otmar Szafnauer, on l'avait évoqué,
peut-être
avait
pas
dit
McLaren,
que,
voilà.
À l'époque.
Mais il y a trois équipes, en tous les cas, qui ont posé ces questions, et ça vaut pour toutes les autres équipes. À partir du moment où il y en a une ou deux qui posent la question, ça veut dire qu'il y a un problème sérieux. Bon, donc on en est là, et si tu te souviens bien, Gilles, en 2015, la question s'était déjà posée, et il y avait un délégué de la FIA, un délégué technique, Marcin Buskowski, qui ensuite fait carrière chez Renault, chez Alpine, qui avait été dépêché dans la soufflerie à Maranello pour voir qu'est-ce qu'on testait comme maquette et qu'est-ce qu'il y avait comme échange, parce qu'on se méfiait déjà d'une Ferrari B sur les circuits à partir de 2016. Donc là, c'est la question qui se pose. Est-ce qu'elles se ressemblent beaucoup, trop, pour ce qui est permis par le règlement?
Exactement. Donc ça sera à suivre, évidemment. Mais voilà, ça permet aussi de mettre une petite épine dans la chaussure de Mattia Binotto, qui, en ce moment, marche un petit peu sur l'eau avec ses voitures rouges. Donc, pour nous, Ferrari, le mieux placé pour profiter de ce week-end de sprint. Alors, ensuite, il y a Red Bull. Et Red Bull, pour toi, Stéphane, peut aussi profiter de la situation. C'est quand même moins net, je pense.
Alors, non, mais c'est moins net, c'est beaucoup moins net, parce que Verstappen a passé son temps à se plaindre lors du dernier Grand Prix que la voiture n'était pas équilibrée sur un tour, sur un relais de course, avec différents types de pneus. Enfin, c'est inextricable. Et c'est Horner qui a dit, nous, on n'aura pas le temps de tester des nouveautés sur un tour, sur des simulations de course, avant de se lancer dans la course sprint, donc on va en rester là. C'est pas la peine d'y aller. Bon, alors j'ajoute que le
prochain.
Donc
il n'y a pas de nouveauté non plus pour Red Bull.
A priori, il n'y a pas de nouveauté majeure. Ça veut dire que aussi, il n'y aura pas de nouveauté à Miami, parce que c'est un nouveau circuit qui sera en partie urbain, assez spécifique. Donc tu n'apprends pas grand chose, donc tu ne sais pas quoi en tirer comme conclusion ensuite. Tu peux avoir un bon package qui fonctionne bien là-bas, mais est-ce que il ne fonctionne que sur ce circuit? Compliqué.
Voilà. Ouais, compliqué de savoir. Pour être tout à fait honnête, Stéphane, là, on a discuté un petit peu tous les deux, parce que moi, j'aurais même mis Red Bull encore plus en difficulté. Pourquoi? Il y a eu trois Grands Prix, il y a deux voitures par équipe. Et ben, sur ces trois Grands Prix, il y a eu seulement trois arrivées pour Red Bull, parce que trois abandons au total, deux pour Verstappen, un pour Sergio Pérez. On a un vrai problème de fiabilité, on l'a déjà évoqué dans les fous du volant, et notamment Helmut Marko, hein, qui ciblait trois problèmes majeurs sur la voiture. Et là, sachant qu'on a un problème de fiabilité, on va faire un week-end où il y a un Grand Prix normal, avec la distance classique, hein, du dimanche, plus un Grand Prix qui fait un tiers d'un Grand Prix total. Ça veut dire que difficulté sur la fiabilité et plus de temps en course, moi. Alors, je dis week-end quitte ou double pour Red Bull.
N'oublie pas une chose, il n'y a pas d'essai libre 3. Généralement, tu fais 20-25 tours et c'est à peu près le quota de tours en course sprint. C'est 21 tours.
21.
Quoi, tu as dit, voilà, c'est ça. Donc, on va s'y retrouver, mais ce n'est pas la même cadence quand même, plutôt que de faire des séries de 4-5 tours pour voir ce qui se passe. Donc, difficulté. Alors, tu as parlé de la fiabilité. Honda, à l'usine de Sakura, a rassuré Verstappen, Red Bull, en disant « c'est bon, tout sera réglé avant Imola ». Le moteur a pu être sauvé parce qu'il y avait eu un début d'incendie sur ce système d'alimentation en essence. Donc, on tourne la page, normalement, une bonne fois pour toutes.
Mmh. On verra ça. Mercedes, que donc moi, j'aurais personnellement mis devant Red Bull pour profiter de ce week-end sprint. Stéphane, on commence peut-être par quelques chiffres que tu voulais mettre en avant pour Mercedes depuis le début de la saison.
Oui, alors attends, effectivement, on va parler fiabilité. C'est la seule équipe qui a mis 6 voitures à l'arrivée, 100% d'arrivée. Jusqu'à présent, il n'y a pas une autre écurie qui a fait aussi bien. Par contre, effectivement, la difficulté, c'est
la performance
sur un tour. Et la Mercedes W13 s'éloigne petit à petit de la voiture de la pole position depuis le premier Grand Prix. C'est une tendance sur les Grands Prix 1, 2 et 3, comme on peut le voir. À Bahreïn, la meilleure des Mercedes, c'était celle d'Hamilton, a fait 100,78% du temps de la pole position. On va vous dire à quoi ça correspond après. En Arabie Saoudite, c'était un peu plus de 101% pour Russell et encore un petit peu plus pour Hamilton à Melbourne. Ça signifie quoi? Ça signifie que sur la moyenne des trois Grands Prix, des trois premiers Grands Prix, la Mercedes faisait 101% du temps de la pole position. 101%, ça veut dire que si la pole position fait 1 minute 40, c'est-à-dire 100 secondes, eh bien, la Mercedes est à 1 seconde, ce qui est énorme. Et sur un tour à peu près moyen sur la saison, c'est-à-dire de 1 minute 30, eh bien, la Mercedes est à 9 dixièmes, c'est juste considérable.
Voilà. Alors, ça, c'est effectivement ce qu'on a constaté sur les chronos en qualification. Et moi, là, je mets un petit bémol parce que, certes, c'est vrai que sur un format plus court, en qualification, la Mercedes n'est pas forcément dans le coup. Là, en revanche, quand on commence à rallonger un petit peu les distances, il y a des choses à jouer pour George Russell et pour Lewis Hamilton. Il y a peut-être moyen quand même pour les hommes de Toto Wolff de tirer leur épingle du jeu.
Alors oui, certainement, parce que c'est vraiment là-dessus, sur des stratégies conjuguées, qu'on essaie de faire le dos rond. On vise les 3e et 4e places, à peu près, jusqu'à présent, en comptant un abandon peut-être d'une Ferrari ou d'une Red Bull, et ça tourne autour de ça, clairement. Par contre, on a parlé de cette rapidité sur un tour, et Toto Wolff l'a matérialisé pour la première fois cette année. Il a dit, eh bien, il n'y a pas longtemps, fin 2021, on était à 14 chevaux, enfin, on était 14 chevaux devant Ferrari, et maintenant c'est l'inverse. On est 14 chevaux derrière. Et ça rejoint un petit peu ce qu'on disait aussi, l'enquête, FIA, etc. Toto Wolff a fait un petit commentaire là-dessus en disant « Nous n'avons jamais vu des progrès aussi significatifs en si peu de temps.
» Voilà. Il y a une petite casserole quand même pour Ferrari, oui. Qui date d'il y a 3-4 ans, on se souvient de
2019.
Avec voilà. La FIA. Bon, donc du coup, on essaye de remettre un petit peu d'huile sur le feu.
Mais il y a un petit peu de pression maintenant. On est à Imola, il y a une grosse attente. Je dirais que Leclerc gère bien. Peut-être que Ferrari aussi va annoncer la reconduction de Sainz pour 2 ans. Alors Sainz, apparemment, il veut 2 années fermes. Ferrari serait prêt à lui offrir une année ferme plus une autre en option. On verra. Mais c'est surtout en coulisses que on les connaît, Toto Wolff, Christian Horner vont mettre une pression de fou. Ça va commencer. Et là, on recommence en mode 2021, la petite guéguerre en coulisses.
Bah, pour en revenir à la technique, chez Mercedes non plus, on n'apportera pas d'évolution significative à Imola. Imola. Ce qui veut dire que donc, chez aucun des trois gros, normalement, parce qu'on peut avoir une surprise, mais en tout cas, les trois ont annoncé qu'il n'y aurait pas d'évolution majeure. Et c'est là, pour conclure, hein, parce que vous avez compris, on pense que c'est Ferrari le mieux placé. Et ensuite, il y a débat entre nous deux pour savoir si c'est Red Bull ou Mercedes derrière. Mais ça veut dire qu'une équipe de la deuxième moitié, du reste du peloton, on pense à McLaren et on pense à Alpine notamment, s'ils amènent une évolution qui marche, on peut peut-être tirer les marrons du feu là, sur ce coup-là.
Il y a aussi AlphaTauri qui va avoir une première grosse évolution de package. J'en viens juste à Mercedes. ça ne s'est pas décidé ces derniers jours. Souviens-toi, juste après la course à Melbourne, Russell a dit ne vous attendez à rien de nouveau. À Imola, il n'y aura pas de nouveauté. On n'a rien dans les cartons et on ne comprend pas cette voiture, tout simplement.
Donc, on en revient à AlphaTauri.
Et AlphaTauri, voilà, Pierre Gasly a dit que c'était le bon moment maintenant de mettre des pièces sur la première course européenne. C'est quelque chose qui était traditionnel. Tu te souviens, Gilles, les équipes mettaient 2-3 Grands Prix pour apprendre Les voitures en Australie sur des circuits assez lointains, il y avait Sepang aussi en début de saison.
Ouais.
C'était difficile de mettre des pièces et de les apporter au bout du monde. Maintenant, on est dans un autre cas de figure. Donc, ça Imola, mais sans les trois gros. Donc, on va voir ce que ça donne, puis on verra aussi ce que fait McLaren.
Exactement. Tout ça pour dire qu'on n'est pas à l'abri d'une surprise du côté d'Imola. On va continuer les fous du volant en évoquant deux tauliers de la Formule 1, Fernando Alonso, Sébastien Vettel, deux salles, deux ambiances hein, pour l'espagnol et pour l'allemand. On a été frappé par les différences d'attitude et de résultats entre les deux totems de la Formule 1 depuis le début de la saison. D'abord un petit comparatif, Fernando Alonso, 40 ans, Sébastien Vettel, 34 ans. L'espagnol a 336 départs en Grand Prix. L'allemand, 280. 32 victoires pour Fernando Alonso, 53 pour Sébastien Vettel. Évidemment, deux titres pour l'espagnol, 4 pour Sébastien Vettel. On parle là de poids lourd, hein, vraiment, ouais, du championnat.
Tu as dit Alonso 34 et Vettel 40.
Eh ben non, c'est ça l'histoire. Mais c'est que c'est l'inverse.
Dans les faits.
Et honnêtement, on a le sentiment que c'est plutôt l'inverse au niveau de l'âge des deux. Alonso est 14e en ce moment du championnat, avec deux points ramenés du tout premier Grand Prix de la saison à Bahreïn. Et franchement, on a le sentiment que c'est mal payé d'avoir seulement deux points depuis le début de la saison. Il est passé tout près d'une superbe qualif. Là, on parle d'une première ou d'une deuxième ligne à Melbourne.
Oui,
clairement. Et puis, il y a eu un problème mécanique. On va y revenir, qui l'en a empêché. Et en face, Sébastien Vettel, qui n'est pas classé au championnat du monde de Formule 1 2022, tout simplement parce qu'il avait été forfait sur les deux premiers Grands Prix pour cause de Covid et qu'il n'a pas été à l'arrivée à Melbourne, sortie de piste, deuxième sortie de piste d'ailleurs du week-end hein, pour l'Espagnol en Australie. Et puis sa balade en scooter pour revenir après sa sortie avant le Grand Prix, le casque à moitié enfoncé sur le crâne. J'avais l'impression de voir, tu sais, un pêcheur du dimanche qui avait oublié les asticots dans le frigo, qui retournait à la maison pour récupérer vite fait ses appâts et retourner au bord de l'étang. Enfin, ça m'a paru assez surréaliste. J'étais un petit peu démobilisé par cette image.
Ouais, et puis en plus, il avait sa bague, etc. La FIA avait dit ne courez pas avec bague, donc pas de casque, rien. Ils n'ont rien fait. Je pensais qu'il allait.
Il a pris une amende quand même. Ouais. Il l'a pris, hein, je crois. Hein. De toute façon, pour Sébastien Vettel, je pense pas que ça
pour être revenu pour
avoir emprunté
la piste. Voilà, c'est ça. Moins de 5 minutes après la fermeture de la piste, autrement, il n'a rien pris pour la question du casque. Alors qu'il fait quand même attention à la sécurité.
Ben bah oui.
Moi, je dis, s'il est un petit peu écolo, il peut rentrer à pied aussi. Voilà.
C'est sûr. Bon. Mais bon, ça c'est autre chose. On va commencer par Fernando Alonso. Je disais qu'on a le sentiment qu'il a été mal payé depuis le début de la saison. Il faut quand même bien reconnaître qu'il n'a pas été verni. Sur la technique, son Alpine, il a quand même joué quelques mauvais tours.
Oui, c'est ça qui gâche un petit peu la fête. Je reprends juste les notes que j'ai. Problème d'étanchéité sur le premier Grand Prix. Check du moteur, il va être remis en service. Pas de problème. Le deuxième moteur, par contre, c'est fini. Pompe à eau, le moteur a surchauffé. C'était un accessoire qui était en dehors du V6, mais qui a provoqué la surchauffe. Ils ne l'ont pas arrêté peut-être à temps. Et puis, le moteur est perdu. Donc, il a monté son troisième moteur à Melbourne. Et là, il y a aussi un souci de jointerie, cuit d'huile, etc. C'est mode sécurité. Le moteur s'est arrêté en fait en qualif pendant qu'il était, je crois qu'il était en avance sur le chrono de la pole position.
On rappelle que le règlement prévoit que les pilotes doivent faire l'ensemble de la saison avec trois grands prix. Ça y est.
Trois moteurs.
Trois moteurs, oui. Fernando Alonso, il a engagé ces trois moteurs. Ça veut dire qu'il peut évidemment utiliser les deux qui lui restent, hein, autant qu'il le veut. Mais ça y est, on a déjà engagé les trois moteurs.
Je ne sais pas si c'est trois ou quatre, mais on regardera, on vérifiera. Mais il y a Zaffnauer, donc Otmar Zaffnauer, qui est nouveau directeur d'équipe d'Alpine, qui a dit ce qu'on a fait à Melbourne. C'est pas possible de ne pas pouvoir le refaire sur d'autres Grands Prix. Il y a d'autres circuits qui ont les mêmes caractéristiques que Melbourne. Donc on va revoir ça. Cette année, c'est sûr. Donc Alonso, il sait qu'il aura d'autres cartes à abattre là-dessus pour pouvoir se placer en troisième force du plateau derrière Ferrari, derrière Red Bull.
L'article 23.32 qui prévoit que tout pilote ne peut utiliser plus de trois moteurs. Voilà,
c'est d'accord, vérifié. On a vérifié en direct. Très bien.
Magnifique. Bon, alors, il y a ça, il y a cette inquiétude quand même pour l'espagnol.
Mais en fait, c'est ce qui gâche tout. On en parlait un petit peu parce qu'il n'est pas bien qualifié. Et c'est pas ce que j'ai pas bien compris, mais il part dixième, il part en pneu dur. Et là, le souci quand on part en pneu dur, c'est qu'on part pour un relais qui est vraiment très long. en croisant les doigts pour qu'il ne se passe rien, pour qu'il
S'il
n'y
ait
pas
de neutralisation.
De neutralisation, parce que autrement, ça gâche toute la stratégie. Une voiture de sécurité réunit, compacte le peloton, et quand vous êtes au cœur de ce peloton et que vous devez ensuite vous arrêter, ben vous repartez dernier. Et c'est la stratégie est saccagée. Donc là, ils ont pris un risque, je dirais, et j'ai pas trop compris, parce que aujourd'hui, maintenant, on le sait en plus que la direction de course a tendance de plus en plus à envoyer en piste la voiture de sécurité, et là ils se mettaient un petit peu à découvert. C'était un gros risque pour moi, et je ne sais pas si ça va pas amener une réflexion chez Alpine là-dessus maintenant, parce que c'est trop dommage de gâcher un tel potentiel.
Moi j'aime bien quand même l'idée qu'un pilote finalement dixième sur la grille, ça lui suffit pas, il prend un pari. Alors c'est un pari risqué qui s'est retourné contre lui, mais je trouve que ça dit quelque chose aussi de la façon dont le pilote et donc sa structure autour de lui hein, aborde le Grand Prix. Il y a aussi un élément que tu voulais soulever, c'est les chronos lors des arrêts au stand chez Alpine. Il va falloir travailler un petit peu.
Non, sur la neutralisation même, j'ai trouvé que Alonso avait perdu un petit peu de temps, et c'est pour ça qu'il se fait aussi dépasser par Russell lors de la neutralisation du 23e tour provoquée par l'accident de Vettel. Donc il est un petit peu timoré, mais c'est vrai que aussi ils sont pas encore complètement dans la mentalité d'aller chercher des écuries comme Ferrari, comme Red Bull, comme Mercedes. On le voit. J'en parle souvent sur les chronos d'intervention dans les pitstops. Alpine n'est pas dans les 10 premiers plus rapides pitstops sur ce Grand Prix à Melbourne, quand on sait quand même que le 10e plus rapide, c'est 3 secondes 15. Je crois que c'est Alfa Romeo qui le fait. Pourquoi ne pas essayer d'aller chercher ça? Alors, je me dis une chose, c'est qu'on avait eu longuement Laurent Rossi l'année dernière qui nous avait expliqué ça, c'est que le jeu n'en vaut pas la chandelle, ce qu'on comprend très bien. Quand on est une écurie challenger qui se donne du temps, sans Grand Prix à peu près, pour aller chercher ces écuries-là. Mais tu vois bien, Gilles, aussi, que Ferrari l'a fait de l'année dernière sur cette année. Ils sont mis en ordre de bataille. Et je dirais que quand on reverra ça aussi chez Alpine, c'est que ça sentira bon. C'est qu'on verra qu'on a envie d'aller chercher maintenant les cadors qui sont devant.
On vous dira aussi dans quelques secondes ce qu'on pense de l'avenir de chacun des deux. En attendant, on s'est intéressé à Fernando Alonso et finalement à l'ambiance, les ambitions, l'approche chez Alpine. On sent qu'il y a de la grinta, il y a envie de faire des choses. Bon, et même si tout ne sourit pas. Alors chez Vettel, c'est pas la même ambiance. Déjà, il faut quand même se souvenir qu'il y avait eu un petit peu de vague à l'âme. Est-ce que Sébastien Vettel avait envie de continuer, de rejoindre Aston Martin? Bon, ça s'était fait.
Quand il avait été remercié
de chez Ferrari.
Par Ferrari.
Voilà.
Oui, tout à fait.
Bon, et ça n'a pas été une démonstration de force de la part d'un quadruple champion du monde arrivant chez Aston Martin l'année dernière face à Lance Stroll. Qui était quand même pas au niveau de la comparaison entre le palmarès des deux pilotes. Stéphane, si tu veux, on va évoquer cette descente petit à petit en régime de Sébastien Vettel sur ces dernières saisons. Je trouve ça très édifiant, les chiffres que tu as remarqués.
C'est une petite tendance, c'est vrai. Alors, en qualification, chez Ferrari, il roulait sur Kimi Raikkonen, qui n'était pas une brute sur le tour chrono du samedi, on est d'accord. 2017, il le bat 15-4. 2018, ça fait 14-6 pour lui, c'est net. On sent vraiment Vettel affûté sur le tour chrono le samedi. Et puis, ça se tasse un petit peu en 2019, ça s'équilibre parce que Charles Leclerc vient d'arriver, il a un talent fou, ce garçon, et ça fait 18. Donc là, ça se resserre, et puis, inversion de tendance. La saison suivante, dans un contexte quand même difficile, parce que il sait qu'il va partir, donc on ne veut plus lui. Leclerc l'emporte 11-8, c'est encore assez serré, mais je trouve surtout que ce qui est un petit peu plus significatif, c'est l'an dernier. Ça fait que 13-8 par rapport à Stroll, c'est pas ébouriffant. Et je pense qu'il aurait dû le dominer beaucoup plus que ça. Alors moi, ça me rappelle un petit peu cette année 2014 aussi, où Vettel était parti un petit peu défaitiste de Red Bull, c'était sa dernière saison. Ricciardo venait d'arriver, et puis Ricciardo l'avait battu en séance de qualification. 12-5, ouais, c'était quand même
c'était
net.
Beaucoup.
Voilà, tout à fait.
Là, on avait vraiment senti une passation de
pouvoir. Donc, Vettel, il lâche un peu l'affaire. Comme ça, parfois, il laisse passer une saison et puis il revient un peu plus fort. Alors, souviens-toi quand même que l'an dernier, ça a commencé très très mal. Il a remonté la pente. Alors là, pourquoi ne pas imaginer qu'il puisse le faire aussi, même si j'ai l'impression qu'on part d'un peu plus loin?
Oui, parce que la différence avec l'année dernière, Stéphane, si tu veux mon avis, c'est que j'ai le sentiment là qu'il y a. Je parlais de vague à l'âme tout à l'heure pour Sébastien Vettel. Il y a. pour moi un énorme doute d'un seul coup chez la famille Stroll, parce que le papa, Lawrence, qui a donc racheté cette équipe Aston Martin, qui injecte beaucoup d'argent, constate une chose, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un monte dans l'autre Aston Martin que celle réservée à son fils, elle va plus vite. Sébastien Vettel en essai. Ensuite, Sébastien Vettel a le Covid, on met Nico Hülkenberg, il monte dans la voiture, il va plus vite. Oh. Et Vettel revient, et pareil. Bon, alors là, du coup, je me dis, à un moment, Laurent Stroll, qui est quand même un monsieur qui a gagné beaucoup d'argent, donc qui doit savoir un petit peu gérer, est en train de se dire, je suis en train de travailler, je suis en train de me creuser la tête. On a même évoqué le fait de faire soi-même un moteur chez Aston Martin. On a été un petit peu rappelé à la raison par la maison mère, mais il est en train de se dire, je vais dépenser une fortune pour essayer de faire de mon fils un champion du monde, mais de toute façon, il aura toujours un coéquipier, et pour l'instant, à chaque fois qu'il y a un coéquipier, il se fait taper. Donc, il y a peut-être un doute là en se disant, ça vaut vraiment le coup. Et Sébastien Vettel, il est dans cette équipe. Il a du mal depuis quelque temps à commencer les saisons. Et il est dans cette équipe qui, pour moi, se pose un petit peu. Le départ d'Otmar Szafnauer, c'est vraiment un signe très, très alarmant de ce qui se passe en ce moment. Et tout ça, c'est réuni pour que Sébastien Vettel, si tu veux, à mon avis, fasse une saison vraiment sous le niveau des radars.
Oui, alors ça, c'est dû pour moi aussi à une Aston Martin qui est mal née.
Ah, ça, c'est
clairement
sûr.
Voilà, et je dirais même, je te fais une petite parenthèse. Il y a un problème sur la voiture de sécurité, l'Aston Martin Vantage. Voilà, parce que Verstappen l'a traité de tortue à Melbourne, en régime de voiture de sécurité. Et Leclerc a dit oui, je la voyais glisser partout, dans tous les sens, elle ne tient pas la route cette voiture. Contre-publicité fabuleuse quand même pour Aston Martin. Russell a rajouté un petit taquet en disant...
Tu vas pas recevoir ton Aston Martin à la fin de la saison.
Il a dit il y a deux voitures de sécurité, puisqu'il y a aussi en alternance une Mercedes AMG GT Black Series. Et il a dit, celle-là, elle est 5 secondes plus rapide que l'Aston Martin. Donc, même quand l'Aston Martin roule quand même devant le peloton, il y a un souci. Donc, c'est mal parti. Pourtant, bon, voilà, Bernd Meilander a fait tout ce qu'il pouvait. Verstappen s'est fait rabrouer par la FIA pour cette petite sortie. Je referme la parenthèse. Mais effectivement, moi, Vettel, je ne le sens pas bien focus, on va dire. Et alors, Mike Craig, tu as parlé du successeur d'Otmar Szafnauer chez Aston Martin, a dit, je pense que vous avez fait les comptes. On a cassé pas mal d'ailerons et de suspensions. On a fait du petit bois quand même à Melbourne. Oui. Il y a eu combien de crash, je ne m'en souviens même plus. Problème moteur pour Vettel en libre 1. Crash aussi de Stroll en libre 3.
En qualif.
Et puis Vettel se crache aussi en course. Donc il a dit, ça fait beaucoup d'ailerons, beaucoup de suspensions. Et le problème aujourd'hui chez Aston Martin, c'est qu'il y a un budget qui est limité. Et là, ce budget, on va peut-être le passer à fabriquer des pièces de rechange plutôt que de fabriquer des pièces évoluées. Ouais. Et ça, c'est le souci. Il a commencé à envoyer un gros warning aux deux pilotes pour dire, là maintenant, il va falloir arrêter les frais. Donc ça risque aussi de pénaliser Vettel dans son évolution, parce qu'on sait que c'est quelqu'un qui est un technicien, qui aime être écouté, qui aime préconiser des choses sur le plan du développement, mais si il retrouve sa voiture à l'identique dans le garage d'un Grand Prix sur l'autre, ça ne va pas le faire.
Et ça va faire impasse sur la fin de la carrière pour Sébastien Vettel, si tu veux mon avis, Stéphane, alors que Fernando Alonso, lui, il en redemande. Il a 6 ans de plus que Sébastien Vettel, oui. Et Fernando Alonso, il le clame haut et fort. Moi, je vais continuer, je veux continuer. Alors Laurent aussi a un problème, on l'a évoqué avec Oscar Piastri. On est en train de commencer à chercher des solutions pour éventuellement mettre Oscar Piastri dans une autre équipe, ça serait tellement mérité l'année prochaine. Mais il faut absolument garder Fernando Alonso, quoi. Quand on voit la grinta qu'il a,
oui, alors,
c'est pas possible que ça s'arrête là.
Alors, Fernando, il a dit, je veux faire 2 ou 3 ans, parce qu'il n'avait pas en tête précisément le nombre de Grands Prix qu'il avait au compteur. Il veut en faire 400. Il a dit, ça serait un beau chiffre à dépasser.
Oui.
Donc, 2 saisons. Bon, le souci quand même, c'est que Alpine veut mettre Piastri dans la voiture. Szafnauer a dit, on n'en est pas encore à décider, mais en juillet, il y aura une grosse pression pour savoir qui on met dans la voiture l'an prochain. Et je pense que ça sera Piastri. Et mon souci, je dirais, ce qui serait dommage, c'est que, personnellement, je ne vois pas un point de chute réaliste pour Alonso s'il veut essayer de viser des podiums, des victoires, avoir une belle fin de carrière. Je ne sais pas qui pourrait lui offrir un contrat. C'est un petit peu fermé partout. Et il aura 41 ans en juillet. Voilà, c'est une somme d'expérience, mais est-ce que ça suffira? Je ne sais pas.
Bon, en tout cas, vous voyez, les trajectoires des deux tauliers, Alonso et Vettel, sont bien différentes en ce début de saison. Bah, peut-être qu'on fera un point finalement à la fin du championnat pour comparer les destinées de ces deux garçons. Alors, on va terminer ce podcast en évoquant Lewis Hamilton. On se souvient qu'après le Grand Prix de Jeddah, Lewis Hamilton avait écrit sur, je pense que c'était sur Instagram, il avait fait une petite publication où il communiquait sur ses difficultés. Il disait « Il est difficile de rester positif. Parfois, j'ai des difficultés mentales et psychologiques depuis un moment. Continuer à avancer est un effort permanent, mais il faut continuer à se battre. » Alors, dans les fous du volant, on a eu envie d'évoquer cette pression que subissent les pilotes de Formule 1 avec quelqu'un dont c'est le métier. On a passé un moment en conversation avec Makis Chamadilis, qui est psychologue du sport, plutôt renommé, qui travaille avec de sportifs dans de très nombreux domaines. Il y a le golf, il y a aussi le ski alpin, donc la gestion du risque, c'est quelque chose, c'est un domaine qu'il connaît également. C'est un entretien qu'on a enregistré il y a quelques jours. Tu vas voir, Stéphane, je trouve ça très instructif. On est donc en compagnie de Makis Chamadilis. Vous êtes docteur en psychologie spécialisé dans le coaching des sportifs de haut niveau. Merci d'être avec nous dans les fous du volant aujourd'hui.
Bonjour Gilles.
Alors, on voulait rebondir sur les communications que Lewis Hamilton a fait il y a quelques semaines. C'était après le Grand Prix d'Arabie Saoudite où il confiait ses difficultés, le fait qu'il avait passé des moments difficiles mentalement, émotionnellement, qu'il voulait essayer de partager en fait ce qui lui arrivait, ce moment difficile. Alors, on va quand même commencer par signaler qu'on ne va pas faire la psychanalyse à distance et virtuellement de Lewis Hamilton. Ça n'aurait aucun intérêt. Et puis surtout, en termes de déontologie, ça serait quand même totalement en dehors des clous. En revanche, je pense que c'est une bonne occasion pour aborder la pression que les sportifs de haut niveau sont appelés à affronter. Et ils sont tous les jours mis sur le grill. On va vraiment décortiquer leur performance, que ce soit les médias, que ce soit leur équipe, les équipes adverses. Et on a le sentiment que finalement, il y a une sélection naturelle sur ce phénomène et que ceux qui ne sont pas armés pour résister à cette pression, finalement, leur performance s'écroule et qu'ils sortent même du jeu. Est-ce que c'est si simple que ça ?
Finalement, c'est assez complexe si on met le témoignage de Hamilton dans le contexte des dernières années. On peut constater qu'effectivement, avant la pandémie, on était beaucoup dans l'optimisation de la performance et finalement, à force d'être enfermé, à force d'avoir du temps dans des chambres d'hôtel où on passe une semaine sans faire pas grand-chose, on a le temps de réfléchir, de se poser les bonnes questions. Et même si le gros de la pandémie est derrière nous, ça a laissé des traces. Il faut penser aussi à des Naomi Osaka qui ont ouvert la voie vers la levée de tabous. Il faut penser aussi au documentaire de Michael Phelps qui finalement finit sur cette idée que it's okay to not be okay, c'est-à-dire, et c'est ce que dit aussi Hamilton, il y a des jours où c'est très difficile de rester positif. Donc, je pense que dans ce contexte-là, on comprend mieux la complexité d'une tâche d'être au top tous les jours.
Alors, effectivement, vous avez parlé de Naomi Osaka, qui a été finalement l'une des premières et sans doute de la manière la plus spectaculaire. Hein, en conférence de presse, elle s'est même totalement écroulée, la joueuse de tennis japonaise. On a eu en France Clarisse Agbegnénou, la judokate championne olympique. On a eu aussi le capitaine de l'équipe de handball, Valentin Porte, champion du monde, champion olympique, qui a décliné une convocation à l'équipe de France parce que ça faisait trop. Je me méfie beaucoup des termes que je vais employer, mais est-ce que on n'est pas, alors c'est pas un effet de mode, mais est-ce que ça veut dire que ça a ouvert la porte, Naomi Osaka, Clarisse Agbegnénou, tout le monde aura noté que ce sont des dames, est-ce que ça ouvre la porte aussi, vous avez mentionné Michael Phelps, au fait que les hommes aussi peuvent avoir des moments un petit peu plus compliqués avec la gestion de leurs émotions?
Oui, même si c'est d'abord les femmes qui en ont parlé, pour moi, il n'y a aucune distinction à faire au niveau des sexes. Peut-être c'est un peu plus compliqué pour des hommes de parler de leur vie intérieure, mais aujourd'hui, on sent qu'ils ont aussi besoin d'évacuer, de mettre des mots sur ce qui leur arrive. Et je reviens quand même sur la pandémie où, au départ, il y a plein de repères qui ont été bousculés et finalement aujourd'hui il y a reprise des compétitions évidemment, mais ça a laissé des traces et certains cherchent maintenant pas que la performance à tout prix, mais ils cherchent aussi un équilibre dans leur vie perso. Et finalement ça c'est une question, une vraie question à se poser. Est-ce que c'est compatible d'être dans le bien-être, tout va bien dans ma vie et de chercher la très très haute performance?
Et c'est sûr que ça demande, alors en général, on emploie le terme de sacrifice, en tout cas, ça demande beaucoup de travail. Et ce que vous nous dites, c'est peut-être que cette période qu'on a vécue, cette épreuve finalement mondiale, ça a remis les choses un petit peu en perspective pour les sportifs de haut niveau également, où la quête de la performance à un moment se heurte à un but, tout simplement.
Oui, parce que la très haute performance, ça rime quand même avec être sur le fil du rasoir, pousser ses limites, faire des sacrifices, même si beaucoup de sportifs n'aiment pas cette expression-là, parce que c'est au départ une passion qui leur permet de vivre de ça. Mais aujourd'hui, j'ai aussi envie de dire, on ne peut pas mettre du positif en face de tout. Quand il y a une souffrance, il ne suffit pas d'être positif. Le but, c'est quand même de donner du sens à ce que je fais, d'être à ma place et certains et certaines avaient du mal à trouver leur place, avaient du mal à trouver du sens, allaient s'entraîner tous les jours et finalement on revient à la notion du pourquoi. Pourquoi me lever tous les matins? Pourquoi m'entraîner tous les jours? Voyez, même dans la vie de tous les jours, la fameuse scène du lundi matin devant la machine à café, comment ça va? Bah, comme un lundi. À ce moment-là, il est où le sens? Pourquoi? Pourquoi y aller?
En fait, en vous écoutant, je me dis que on a un petit peu tendance à idéaliser les sportifs de haut niveau, à en faire des surhommes ou des surfemmes. Mais finalement, quelque part, le lundi matin, on le connaît tous, nous, dans notre vie de tous les jours, du commun des mortels. Ça les ramène aussi à cette condition de simple humain.
Oui, en gros, ils sont en train de nous dire, attention, on n'est pas non plus des surhommes, on a aussi nos problèmes, notre vie intérieure. Mais j'ai aussi envie de dire, ils ont besoin d'évacuer. Aujourd'hui, certains vont se renfermer sur eux-mêmes. On parle beaucoup de dépression aussi ces jours-ci. Je pense qu'il faut faire la part des choses entre des moments où on est un peu down et une vraie dépression où on va s'enfermer chez soi, on ferme les volets, on ne veut plus parler à personne, on va s'isoler. C'est pas du tout pareil. Mais finalement, voilà, c'est ne plus le dernier des chevaliers blancs, le sportif. Il a aussi le droit de dire, c'est difficile de me mobiliser. Il y a quand même une différence avec Monsieur Tout-le-Monde. Le sportif, il vient. À l'intérieur, il a un rêve d'enfant, de gagner Roland-Garros, de gagner le Grand Prix de je ne sais pas qui, de devenir champion olympique. Monsieur Tout-le-Monde n'a pas peut-être rêvé de vendre des dentifrices ou des journaux, on a tous besoin de rêves, hein, attention. Mais la question, c'est est-ce que le rêve est encore intact quand on entend des Phelps, des Hamilton? Est-ce que ça a encore du sens de prendre des risques, notamment dans les sports où il y a un vrai danger.
Eh bien justement, j'allais vous en parler. C'était la question suivante. Est-ce que, d'après vous, le danger, ça rajoute ou ça modifie le rapport que les sportifs de haut niveau, donc les pilotes en l'occurrence, ont avec la pression? Est-ce qu'on peut encaisser cette contrainte du risque jusqu'à un certain jour et puis d'un seul coup se dire j'y arrive plus?
Alors, je pense que dans les sports où il y a un vrai danger, comme les sports mécaniques, mais aussi le ski et même la boxe, au départ, on part d'une forme d'insouciance parce qu'on est dans la passion, on est jeune. Après, cette insouciance va laisser sa place à une forme de risque calculé. qui a du sens, mais le jour où on se pose trop de questions, moi je pense notamment à un ancien skieur champion olympique, Antoine Denereaz, le jour où il a dit bah, j'ai beaucoup plus peur qu'avant, est-ce que ça a du sens pour moi? Ben non, j'arrête parce que il y a une vie aussi après. Quand on se pose trop de questions, c'est vraiment un signal auquel il faut être très très vigilant. Et ça ne veut pas dire que ma carrière est terminée, ça veut dire qu'il faut se poser, et aussi les pour et les contre, est-ce que ça a encore du sens pour moi? Peut-être je dois prendre un virage, fonctionner différemment, ou prendre du recul avant de revenir.
Est-ce qu'on a une idée de ce qui peut provoquer ça chez un sportif? Alors, si on reprend le cas de Lewis Hamilton, encore une fois, on ne va pas faire sa psychanalyse, mais Lewis Hamilton, sur ses dernières saisons, il a vécu, comme tous les pilotes, des moments traumatisants. Il y a un jeune pilote en Formule 2, qui est donc la division juste en dessous de la Formule 1, qui est décédé il doit y avoir 2 ans maintenant. Il y a eu l'accident de Romain Grosjean aussi, qui a été très, très spectaculaire. Et là, pour le coup, c'était vraiment pendant la course de Lewis Hamilton. Il y a des résultats en moins aujourd'hui. Est-ce que tout cela, ça peut d'un seul coup pousser un athlète à se dire bon, j'ai gagné beaucoup, est-ce que le jeu en vaut la chandelle?
Je pense qu'effectivement il y a des étapes dans une carrière. Quand on a soif et on a envie et on doit faire ses preuves, on y va. On peut dire aussi que finalement c'est un moment où parfois on est dans la toute-puissance, on pense que rien ne peut nous arriver, jusqu'au moment où il y a une prise de conscience. On l'a vu d'ailleurs le week-end où Senna est décédé, ben, il y a eu pareil des décès ou des gros accidents qui ont fait que ben, finalement ça peut m'arriver aussi, une prise de conscience. Donc parfois ça peut être aussi la paternité, on devient un père et on se dit ah, putain, j'ai quand même envie un jour de jouer au foot avec mes enfants dans 10 ou 15 ans. Maintenant, sur Hamilton, je ne peux pas me prononcer, mais effectivement, je pense qu'il y a une prise de conscience qu'il n'y a pas que ça dans la vie.
Est-ce que, et ça sera une de mes dernières questions, on va voir si je vous relance ou pas, est-ce que quand on commence à avoir ce genre de message, on s'approche de la fin d'une carrière d'un sportif, ou bien est-ce que absolument pas, et on peut trouver des ressorts et continuer?
Bah, pour moi, la vraie question, c'est est-ce qu'on est encore habité? Est-ce qu'on est encore obsédé? Parce que c'est ça, le très haut niveau, c'est des gens qui sont obsédés, qui, je pourrais le dire autrement, qui se sentent investis d'une mission. Si cette mission, elle est encore à l'intérieur, elle me fait vibrer, c'est quelque chose de viscéral, là, il y a de la place pour avancer. Si on ne se sent plus investi d'une mission, et peut-être qu'on a envie d'autre chose, bah là, ça rime plutôt avec rupture, avec fin, avec break. Mais je pense que dans ces moments-là, ce qui est très, très important pour l'athlète et le pilote surtout, c'est d'avoir un entourage qui tient la route, un entourage où il y a des gens qui sont compétents et avec qui on peut partir à la guerre. C'est des gens de confiance qui vont nous conseiller, qui vont nous dire « mais je te connais depuis un moment, ce n'est qu'un mauvais passage » ou au contraire, là, il faut vraiment qu'on discute. Beaucoup va se jouer aussi là-dessus pour tester la solidité du projet.
D'accord. Alors, en fait, ça, ce qu'on voit, c'est que là aussi, hein, finalement, il y a pas de sport individuel, véritablement. Il n'y a pas de parcours individuel. C'est toujours une question d'entourage, de cellules qu'il y a autour de l'athlète.
Oui, et je pense que c'est un peu aussi le futur de la performance mentale, c'est de savoir bien s'entourer et ne pas écouter le dernier qui a parlé, de bien choisir les gens qui nous donnent les bonnes ondes, qui nous donnent de l'énergie et faire la part des choses avec les gens qui sont toxiques, c'est un thème aussi qui est d'actualité, pour durer, pour aller contre l'usure et pour continuer à prendre du plaisir dans ce qu'on fait, mais s'inscrire dans la durée.
Est-ce que vous avez, vous, alors je ne vais pas vous demander de nom parce que j'imagine que dans une certaine mesure, il y a quand même un secret professionnel. Est-ce que vous avez un exemple d'athlète qui est passé par un moment très compliqué mentalement, émotionnellement et qui a finalement réussi à trouver les clés et à se relancer et à retrouver le chemin du succès?
Oui, il y a des athlètes et je pense que là, c'est aussi un signe de grande intelligence émotionnel, pas le quotient intellectuel évidemment, des gens qui ont souffert, qui sont allés, qui étaient au fond du trou et que finalement ils se sont réanimés, soit tout seuls, soit avec l'aide d'autres personnes, parce que ils se sont posé les bonnes questions. Pourquoi revenir? Est-ce que je peux encore faire quelque chose? Et souvent, ça passait aussi par l'idée d'une question d'orgueil de champion. Maintenant, je vais leur montrer que je ne suis pas fini. Et ça, il ne faut pas le confondre avec le match de trop qu'on fait par péché d'orgueil. C'est pour ça que j'ai utilisé la notion d'intelligence émotionnelle, d'intelligence aussi collective, de savoir qu'est-ce qui est bon, bien pour moi, comment rebondir. Et comment chercher la performance, parce que finalement la performance elle est ni mathématique, elle est ni mystérieuse, on peut la traquer, mais pour ça il faut rien laisser au hasard, et derrière chaque athlète qui performe il y a une équipe qui est performante aussi.
Merci beaucoup, en tout cas, Makis Chamalidis, de nous avoir répondu. Ça nous permet aussi de comprendre aussi certains ressorts et de voir. Là, j'ai une dernière question. Si on reprend un peu ce que disait Lewis Hamilton, il y a aussi une chose qui m'a frappé, c'est que finalement, il se sert de ce moment difficile pour dire aux gens autour de lui, en tout cas, il a 27 millions d'abonnés, hein, je crois, sur les réseaux sociaux, vous vivez des moments difficiles, moi aussi, quelque part, il y a une sorte d'échange de synergie entre celui qu'on dit être le champion et finalement l'homme normal qu'il est par rapport à ceux qui le suivent sur les réseaux sociaux.
Oui, en fait, c'est un message qu'il fait passer à son public où il dit « on est dans le même bateau, il y a des moments qui sont durs ». Restons dans la gratitude, c'est aussi un mot qu'on utilise beaucoup là récemment, mais il dit aussi, tiens, il y a un copain qui m'a rappelé qu'on peut faire les choses, et finalement, il dit, on a tous besoin des gens qui nous donnent cette énergie, qui croient en nous. Je pense que c'est un appel aussi à se positionner sur son entourage, est-ce que je suis bien entouré, et quand je suis down, est-ce qu'il y a des gens qui m'aident à me remobiliser?
On peut dire que finalement ce message, c'est quand même déjà beaucoup d'espoir. En tout cas, il a fait le point sur sa difficulté. Il l'a mentalisé.
Oui, il dit « je suis en confiance avec vous ». Je peux dire en moins et en partie mes états d'âme, mais on est ensemble. Je vous communique comment je me sens. Et ça veut dire, je vous fais confiance. Et c'est un message plutôt positif parce que ça veut dire aussi qu'il ne se cache pas, il n'a pas honte de ce qui lui arrive et il peut être droit dans ses bottes.
Ben c'est formidable en tout cas parce que nous, on espère franchement qu'il va passer, Lewis Hamilton, à travers ses difficultés, en ressortir peut-être plus fort pour le sport, pour l'homme aussi hein, qu'il est, parce qu'on ne s'arrête pas à la discipline. Hein. Après, si demain, il décide d'arrêter et qu'il en est heureux, nous, ça nous convient tout à fait. Mais merci en tout cas de nous avoir donné votre avis, Makis Chamalidis. C'était drôlement intéressant. Merci d'être intervenu dans Les Fous du Volant.
Merci à vous, Gilles. À bientôt.
À bientôt.
Voilà donc pour cet entretien avec Makis Chamalidis qui se conclut finalement avec une note plutôt d'espoir et plutôt positive pour Lewis Hamilton. Stéphane, avant de se quitter, on va quand même rappeler les horaires hein, de ce Grand Prix d'Émilie-Romagne. Vendredi 13h30, les essais libres 1. Et partez pas loin, parce que dès 17h, c'est les qualifications. Hein, c'est un Grand Prix sprint, donc c'est un petit peu particulier. Samedi 12h30, les essais libres 2, mais vous ne serez pas libre non plus l'après-midi. Il y aura la course sprint à 16h30, et puis enfin dimanche à 15h, le Grand Prix d'Émilie-Romagne. Quatrième épreuve de la saison. Ce podcast qui est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify, en passant par Acast et par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et aussi à vous abonner. J'allais dire à vous abandonner. Non, ça c'est en Grand Prix, c'est pas pour le podcast. Et de cette manière, vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. On vous souhaite un bon week-end à Imola. Et Stéphane, on se retrouve la semaine prochaine pour faire le point. D'ici là, on coupe le contact.
Contact. Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.